Voilà. Maintenant, j'ai appuyé sur le bouton on. J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer. Oh la bombe. Oh la bombe. Attention. Et c'est un chant. C'est un chant. Un chant tout en discrétion. Hello, hello. Coucou à toutes, coucou à tous. Donc, eh bien, c'est Charlie, je m'installe, voilà, c'est Charlie, et on se retrouve donc pour une nouvelle émission du Before Two. Yeah, c'est là, je n'ai pas compté le nombre d'émissions, combien on en est, on s'en fout. Donc, une nouvelle émission du Before Two, dédiée, mes amis, cette semaine, on va parler paraphilie. Voilà, paraphilie. Ça vous dit quelque chose? Vous avez quelques notions de latin, de grec, tout ça, paraphilie? Non, vous voyez pas? Vous avez regardé Esprit Criminel? Peut-être il parle de paraphilie aussi dans Esprit Criminel, hein. Alors, dans un premier temps, justement, on va définir la paraphilie. On verra que on est tous un petit peu paraphiles, de toute manière. Parce que la paraphilie, c'est toujours par rapport à une norme. Donc on va se poser du coup la question de la normalité et voir que ce qui est considéré aujourd'hui comme une paraphilie était hier quelque chose d'absolument normal et même de recherché. Et puis, on va s'intéresser aux paraphilies un petit peu étranges. Il y en a des très 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 bizarres, hein, comme quoi tous les goûts sont dans la nature, tous les fantasmes aussi. Et puis il y a aussi des paraphilies létales, mortelles, pour soi ou pour les autres. Vous êtes hyper intrigués, hein, vous savez pas ce que c'est la paraphilie, hein. Et puis bah du coup on va se demander est-ce que ça se soigne et comment. Voilà, c'est surtout comment. Alors la paraphilie, est-ce que c'est quand on fantasme sur les paras? Pas forcément, hein. Ce n'est pas fantasmer sur les parachutistes. Si on fantasme exclusivement sur les paraboots, les chaussures paraboots, du coup c'est un fétichisme, donc c'est une paraphilie. Paraphilie, ça vient du grec para, je suis tellement forte en grec, qui veut dire auprès d'eux, à côté d'eux, et philia, qui veut dire amour. C'est donc l'amour à côté. L'amour à côté de quoi? En fait, c'est une pratique sexuelle ou une source d'excitation sexuelle qui diffère des actes traditionnellement considérés comme normaux. Et ça peut être aussi des pratiques que la loi proscrit. À ce moment-là, la paraphilie devient un délit, voire un crime sexuel, selon les pays. Le terme paraphilie, il est utilisé dans certains milieux psychiatriques aux États-Unis. En fait, il a remplacé le mot perversion sexuelle, qui était considéré comme un petit peu péjoratif. L'idée est la même, c'est-à-dire que il y a une bonne manière réglée sur la norme de désirer, d'être excité et de baiser. Et du coup, quand c'est à côté, c'est déviation ou perversion sexuelle. Et du coup, ils se sont dit, paraphilie, c'est quand même un petit peu moins péjoratif. Les gens ont moins l'impression d'être direct bon pour l'asile. Il y a huit grandes familles de paraphilie avec plein de sous-familles. Alors, dans les huit grandes familles, on retrouve quoi? Alors après, chacun a ses petits détails. Dans les huit grandes familles, on va retrouver l'exhibitionnisme. C'est un besoin ou un comportement actuel d'exposer ses parties génitales à d'autres personnes ou d'agir sexuellement en public. Si vous ne prenez votre pied qu'en baisant dans le métro en heure de pointe, eh bien, vous êtes atteint d'une paraphilie qui s'appelle l'exhibitionnisme. Il y a aussi tous les fétichismes sexuels. Fétichisme sexuel, ça veut dire qu'on utilise un objet inanimé pour avoir une excitation sexuelle. Tous les objets inanimés, ça peut être aussi bien des chaussures, que de la lingerie, que des clés à molette. Tout dépend où se situe après votre fétichisme. Et il y a le partialisme, mais c'est une forme de fétichisme. Le partialisme, en fait, c'est quand on kiffe, mais que ça nous excite follement, une partie spécifique du corps qui au départ n'est pas sexuelle, comme par exemple les pieds ou les clavicules. Moi j'ai par exemple, j'aime beaucoup, c'est quelque chose chez un mec, c'est pas forcément les clavicules qui vont m'exciter sexuellement, mais ça fait partie des choses qui qui vont m'attirer, ou les mains, ou que sais-je. Ça, c'est le partialisme, mais le partialisme, ça, c'est une des sous-familles du fétichisme. Il y a aussi, dans les paraphilies, les 8 grandes familles, le frotterisme. Le frotterisme, c'est quoi? C'est le besoin, ou le fait, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, et du coup, ils le font, de toucher ou de se frotter contre une personne non consentante. Et alors là, beaucoup d'entre vous vont se dire, mais oui, mais bien sûr, le frotterisme, c'est donc le mec qui peut pas s'empêcher de me coller sa bite dans le métro aux heures de pointe, sous prétexte que, ah, désolé, il y avait du monde et j'ai bandé à ce moment-là.
Mais oui.
Et ben ça, c'est qu'en fait, ce mec a une paraphilie, c'est le frotterisme.
Moi, je suis Charlie-file. Faut que je me frotte à
Charlie-file, il faut qu'il se frotte, Charlie Phil. Ouais. Voilà, c'était une intervention très intéressante, merci. Je vais prendre une oreillette plutôt, moi.
Non, je te conseille pas de m'avoir à travers l'oreillette.
Non, je continue. On a aussi la pédophilie. C'est une paraphilie, c'est-à-dire que on est dans quelque chose qui est à côté de l'amour normal. C'est-à-dire qu'on a une préférence sexuelle pour les enfants. Alors après, ça peut être des tout petits, des moyens, des grands, voilà, pour les mineurs. On a aussi le masochisme sexuel, besoin au comportement actuel de recherche d'humiliation, d'être tapé, soumis ou de souffrir. Et l'humiliation ou la souffrance, en fait, c'est un plaisir sexuel. La voix, je sais pas si la voix, ça fait partie du partialisme, cher Palilogie. Je ne sais pas. On continue dans les grandes familles. Donc on avait le masochisme, on a aussi le sadisme sexuel. Le sadisme sexuel, c'est le besoin ou le comportement de recherche de souffrance sur une autre personne en tant que plaisir sexuel. En général, les masochistes s'entendent assez bien avec les sadiques. Sachant que le masochiste, qui lui va être axé sur « j'adore quand on me fouette violemment », ça va l'exciter sexuellement. Et le sadique, lui, ça va l'exciter sexuellement de donner des coups de fouet. Donc du coup, tout le monde est heureux. Il y a aussi le travestissement fétichiste, c'est l'attirance dans le port des vêtements du sexe opposé. C'est par exemple si un mec, pour être excité sexuellement, il a besoin d'emprunter l'ensemble en dentelle, soutien-gorge-culotte de sa copine. Ça, c'est une paraphilie aussi, c'est le travestissement fétichiste. Il y a aussi le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est le besoin d'observer un individu qui ne s'en doute pas, qui est nu ou dénudé, ou qui est en train d'avoir des rapports sexuels, sachant qu'en général, dans le voyeurisme, t'es un petit peu planqué. Et après, il y a une autre famille qui est les paraphilies diverses et variées. Donc là, on peut se dire, ouais, non mais, c'est quand même un peu des malades, quoi. Je veux dire, pas tout le monde... Les sadiques, ou baso, ou vraiment frotteuriste, faut être un grand malade pour faire ça. Rappelons-nous qu'on définit une paraphilie en fonction de la norme. Toujours paraphilie aimée à côté de la norme. Donc, du coup, les paraphilies varient en fonction du temps, des époques, des cultures, des sociétés dans lesquelles on vit. La normalité, la normalité définit la normale, vous voyez? Et du coup, ce qui est anormal à une époque va devenir totalement normal à une autre époque. Quelques petits exemples. La bisexualité, à l'heure actuelle, c'est un petit peu une paraphilie. Puisque je veux dire, si on écoute les valeurs de la France, petite fille de l'église... Non, je vous dis ça parce qu'il y a pas longtemps, on m'a balancé ça sur Twitter en message privé en me disant « Oh, elle est belle la France !» et dire que c'est la deuxième petite fille de l'église. Je me dis « Ah oui, quand même !» Donc, c'est vrai, par exemple, pour les gens qui manifestent pour sens commun, la bisexualité, c'est totalement une paraphilie. Eh ben, dans l'Antiquité grecque, c'était la norme. C'est-à-dire que si t'étais pas bisexuel, t'étais un petit peu strange, pour les mecs. Dans l'Antiquité romaine, la norme, c'était la virilité. La virilité, en sens de grand principe, c'était quoi? C'était la valorisation de l'homme actif. Donc quand tu es un homme actif et libre, attention les esclaves, c'est pas pareil, c'est pas tout à fait des hommes. Donc pour les hommes libres, La norme, c'était la virilité, donc tu niques avec qui tu veux tant que tu es actif. Tu peux t'enfiler tous les mecs que tu veux, si c'est des esclaves, il n'y a pas de souci. Il y a ces mecs qui résumaient ça en une petite phrase très sympa. La passivité est un crime chez un homme de naissance libre. Chez un esclave, c'est son devoir le plus absolu. Donc voilà, pour être dans la quintessence de l'homme libre et viril, il faut que tu sois actif. Ta femme va être dessus, mais que dalle, c'est en levrette, la tête enfoncée dans l'oreiller. Voilà. Et pareil avec tes esclaves, etc. Hommes, femmes, on s'en foutait. C'était, il fallait être actif. C'était la puissance, la virilité. Au 19e siècle, le modèle, la norme, ça devient l'instinct sexuel. Alors attention. C'est pour ça qu'il ne se faisait pas sucer mais baiser la bouche. Bah, en fait, si, il pouvait. Ah, oui, c'est ça, tout à fait. J'allais dire oui, oui. Oui, tout à fait, exactement. Exactement. C'est, il fallait être actif. Au 19e siècle, rappelez-vous, le 19e siècle, c'est, on en avait parlé l'émission dernière, c'est un petit peu l'apothéose au niveau de la malédiction sur la masturbation, au niveau des tortures qui sont faites pour éviter la masturbation. Pourquoi ? Parce que le modèle, c'est l'instinct sexuel. Attention, l'instinct sexuel, ça ne veut pas dire « Ouh, j'ai envie, je te prends ». Pas du tout, du tout, du tout. L'instinct sexuel, il faut comprendre la reproduction. Hein. On revient au côté très animal, on ne baise que pour se reproduire. Donc, tout ce qui ne sert pas à la reproduction, c'est une déviance, donc une paraphilie. Donc, la sodomie, paraphilie. Les rapports orogénitaux, cuni, pipe, paraphilie. La masturbation, paraphilie. L'homosexualité, paraphilie. Les rapports entre personnes prépubères, c'est-à-dire tes deux adolescents, genre t'as 13 ans les deux, mais la meuf a pas ses règles, donc elle ne peut pas, a priori, donner la vie, c'est une paraphilie aussi, puisque le but, le cul, ne sert qu'à se reproduire. Amen, Ave Maria, yola. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre norme à nous, c'est quoi ? On en est où ? C'est rigolo, j'ai écrit juste aujourd'hui un petit article, si vous voulez aller lire sur mon site, charlie-liveshow.com, qui s'appelle « J'ai loupé la libération sexuelle ». Parce que je vois gentiment qu'il y a une nouvelle norme, en fait, qui est en train de se mettre en place. Enfin, peut-être ça dépend, je ne sais pas. Comme je suis dans un milieu très... les blogs culturels, les blogs libertins, tout ça, j'ai l'impression que maintenant la norme, c'est de faire des partouts tous les week-ends et d'être libertin. Et que c'est juste la mise en place d'une nouvelle norme et que maintenant avoir une sexualité vanille, c'est le truc qui devient hyper has-been. Autant, si ça continue comme ça, dans quelques années, avoir juste envie d'avoir un rapport simple avec quelqu'un du sexe opposé, ça va devenir une paraphilie. C'est bien ça, c'est que tout dépend, en fait, de la norme et de la définition de la norme, qui est variable. Dans les années 2000, il y a eu des recherches en neurosciences qui ont montré que chez l'être humain, mais aussi chez le chimpanzé, chez le bonobo, chez l'orang-outan, chez le dauphin, le comportement sexuel n'est plus un comportement de reproduction, on est plus sensible aux phéromones, on n'est pas comme des mammifères où d'un coup, par exemple, chez les chiens, elles ont leur chaleur et c'est que à ce moment-là qu'elles niquent. Nous, maintenant, notre comportement sexuel n'est plus influencé par les hormones comme ça. Et du coup, c'est un comportement érotique, beaucoup plus qu'un comportement de reproduction. Et du coup, c'est très très lié au système, ce qu'on appelle le système de récompense. Chez les autres mammifères, les comportements sexuels sont vraiment dépendants des phéromones et des hormones. Et en fait, chez les mammifères les plus simples, c'est les phéromones qui sont à l'origine de l'hétérosexualité. C'est juste que d'un coup, pour la survie de l'espèce, c'est quand même vachement plus pratique. L'hétérosexualité, ça permet de se reproduire, quoi. Mais donc chez les mammifères plus complexes, je les citais plus haut, c'est l'importance du système de récompense-renforcement dans notre cerveau qui est devenu majeur, en fait. Le système récompense-renforcement, ça se passe au niveau du cerveau, c'est le truc qui fait que ton cerveau va très vite enregistrer pour une action donnée. Par exemple, quand tu es petit, tu ramènes une bonne note, on te dit « Ouh, c'est bien, tu as un bisou », et bien très vite, ton cerveau va comprendre « Ok, ramener des bonnes notes égale bisou, donc je vais me mettre à travailler parce que j'attends la récompense ». Et dans le même ordre d'idée, c'est « Je ramène des mauvaises notes, claque dans ma gueule, pas agréable, punition, donc je vais éviter à tout prix cette situation pour éviter la punition ». Voilà. Voilà, voilà. En fait, du coup, le but du comportement sexuel chez les humains, c'est plus le coït vaginal, c'est la recherche des plaisirs érotiques qui vont activer le système de récompense. C'est lié à la dopamine, au cytopamine, etc., etc. Et les plaisirs érotiques sont procurés par la stimulation du corps et des zones érogènes. Et du coup, peu importe les caractéristiques du ou des partenaires. Voilà, ça c'était un petit peu de... Ah, de biologie. Attention, attention, ça va commencer à devenir compliqué. Donc, continuons un petit peu. Je vous ai mis la tête pleine, là. Vous voulez un petit peu de musique? Allez, attention, un petit peu de musique. C'est une autre forme de paraphilie. I wanna be your dog. Ouais, je veux être ton chien. Il y a des paraphilies, on se déguise en chien. Dog. Donc, d'ailleurs, c'est une paraphilie hein, adorée déguisée en chien pour s'exciter sexuellement. C'est une autre forme de paraphilie. Je sais pas si j'ai le nom exactement. Mais en fait, c'est vrai qu'on pourrait se dire, non, c'est quand même les gens bizarres, moi, je suis hyper normale. Et bien, vous allez voir qu'en fait, on est tous un petit peu paraphiles. J'ai trouvé un excellent article sur un site qui s'appelle ladiesroom.fr et qui recense un petit peu les paraphilies qui nous touchent tous plus ou moins de près. Par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est la scopophilie? Eh bien, la scopophilie, en fait, c'est une paraphilie et c'est une forte attirance pour les situations à connotation sexuelle. Films porno, peep show, live show, magazine porno. Donc, en fait, du moment où, par exemple, pour exciter sexuellement, pour te branler, t'aimes bien mater un film de cul, tu es paraphilie. Donc, rassurez-vous, on est tous. En fait, ça fait du bien, ça détend, je trouve, de se dire qu'on est tous un peu fous, on est tous dans des trucs, c'est quoi la norme absolue, la norme parfaite, quoi. J'allais dire un truc que je vous dirai enfin, à la fin. Autre, du coup, paraphilie, le fétichisme, donc ça je vous en ai parlé, nécessité d'utiliser un objet non sexuel ou une partie du corps asexué pour obtenir une excitation sexuelle, donc le fétiche pied, évidemment, on en entend beaucoup parler, mais par exemple, la lingerie. Si t'as une excitation érotique et sexuelle, particulièrement quand tu vois ta meuf porter une jolie lingerie, ou quand tu aimes porter une jolie lingerie, si t'es excité par une zone du corps ou la voix, etc., bah t'es un petit peu paraphile sur les bords. Voilà. L'acomoclitisme. L'acomoclitisme, paraphilie, qui consiste à être attiré par les pubis rasés. Ouh, qu'est-ce qu'il y a comme paraphilie, là? Après, il y a aussi la paraphilie inverse, c'est la tricot, je sais pas quoi, où t'es attiré, par contre, par les poils. Hein, voilà, je sais que, par exemple, il y a des femmes qui sont extrêmement attirées. Plus les partenaires sont poilus, plus elles kiffent. Voilà, elle se reconnaîtra. Il y a aussi le bouboupisme. Attention, est-ce que vous êtes atteint de bouboupisme? Le bouboupisme, c'est l'excitation sexuelle lors du pincement des tétons. Eh ouais, autant vous venez de découvrir que vous êtes bouboupiste. Vous êtes donc définitivement paraphile. Il y a la lictiophilie. Moi, je suis carrément lictiophile. C'est l'excitation par le fait de se faire lécher. Alors, me faire lécher la joue, ça ne va pas personnellement m'exciter. Mais par contre, me faire lécher la chatte, comme on vous dit, le cuni, je suis totalement lictiophile. Je sais pas vous. Pour les mecs, c'est pareil. Hein. Lécher, sucer, tout ça. Donc, on est tous quand même un petit peu paraphile. On continue. L'olfactophilie, c'est être excité par l'odeur des sécrétions du corps de l'autre. La spermophilie, c'est l'excitation par la vue, la manipulation ou l'ingestion de sperme. Là-dessus, j'ai plus son nom, mais c'était dans un bouquin qui s'appelle Pornoland, écrit par un ancien journaliste de haute vidéo, et qui raconte, à un moment donné, une anecdote sur une nana, mais qui était spermophile, et qui adorait voir du sperme en boire, s'en mettre partout, et du coup, elle avait fait un boukake, mais un truc monstrueux, c'était la reine du boukake, parce qu'elle était très clairement spermophile. Voilà. La coprolalie. Est-ce que vous êtes coprolale? La coprolalie, eh bien, maintenant on le connaît sous le nom de Dirty Talk. C'est une excitation sexuelle par le fait d'insulter ou d'être insulté. Vous savez, le moment où quand tu vases, pour augmenter ton excitation sexuelle, tu peux pas t'empêcher de dire « Mais vas-y, putain, prends-moi, prends-moi profondément, je suis ta pute, vas-y, baisse ta chienne, hein, oui, connard, baise-moi » Voilà. Alors, il y a des gens qui sont pas... Mais il y a des gens qui sont coprolali, je sais pas comment, voilà. Ça a des noms très compliqués, hein. La vipsilania. Ça, c'est l'excitation due au fait d'être attaché ou entravé. Voilà. Donc, après, il faut savoir qu'il y a attirance légère, on est légèrement paraphile, ou on est très 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 fort paraphile. Ça peut devenir problématique, une paraphilie, mais comme tout, en fait, du moment où ça pousse la personne à assouvir sa pulsion à tout prix, et qu'il y a que quand il y a cette action-là, ce facteur-là qui remplace que l'excitation sexuelle peut exister, et que ça commence à devenir carrément handicapant pour sa vie sociale, sa vie affective, son boulot, etc. Il y a des normes dans le dictionnaire médical, je sais plus quoi, je crois que c'est quand ta paraphilie est répétée très régulièrement pendant au moins 6 mois, et que tu commences à plus t'en passer, plus pouvoir t'en passer, là, du coup, tu commences vraiment à te dire, bon, là, la paraphilie, elle commence à être un peu forte, quoi. Alors, maintenant, là, on a vu, on est tous paraphiles depuis là, on va passer dans le monde des paraphilies hyper strangos, ok? Les paraphilies vraiment étranges. Alors, il y a, par exemple, l'ursusagalmatophilie, qu'on peut aussi appeler la peluchophilie, ou le furie, ou le yif. En fait, c'est quoi? C'est des personnes qui sont excitées par les ours en peluche, ou les gens qui sont déguisés en ours en peluche, ou quand ils se déguisent en ours en peluche, c'est le truc qui les excite follement. Voilà. Il y a des conventions aux États-Unis. Alors, il y en a qui font ça que pour le côté convention du PIA. Ça, c'est la partie soft du furry. Mais il y a le furry sex qui est, du coup, c'est plus sexuel, quoi. Et du coup, les furry soft, ils aiment pas du tout les furry sex qui donnent une mauvaise image. Voilà. Donc, il y a la passion de l'ours en peluche. Oui, oui. Il y a le farting. Voilà. Alors, l'olfactophilie, c'est-à-dire, on l'avait vu, l'olfactophilie, c'est être excité par l'odeur des sécrétions du corps de l'autre. Avec, du coup, une petite part, c'est la flatophilie. Ou ce qui t'excite, en fait, c'est quand l'autre pète. Voilà, c'est que ton excitation sexuelle vient du fait que l'autre pète. Et alors, quand tu peux coller ton nez à travers un tissu qui te pète dessus, là, c'est le kiff. Je vous ai dit, on est dans les paraphilies un peu strangos. On continue. Il y a la spectrophilie ou l'exopiophilie. Ça, c'est une attirance sexuelle très forte pour des relations sexuelles avec des fantômes, pour la spectrophilie. Ou avec des extraterrestres pour l'exobiophilie, on peut trouver sur des forums des gens qui témoignent de leur relation sexuelle avec des extraterrestres ou des spectres. Voilà. Il y a le filérisme. Ça, c'est tout ce qui est lié en fait à la nourriture. C'est des gens qui vont trouver un plaisir. Alors, on a tous, moi, j'ai du plaisir à manger, mais j'ai pas un plaisir sexuel. C'est des gens... La paraphilie, c'est du moment où on déplace son excitation sexuelle ailleurs que sur le coït, en fait. Donc, c'est l'excitation qui consiste à trouver du plaisir en mangeant et en grossissant. Ou alors, en nourrissant quelqu'un en sachant que tu vas le faire grossir. Voilà. Ça, c'est le truc. Voilà. C'est... Voilà. Après, il y a en ce moment une petite tendance, mais après, c'est plus du fantasme, c'est le tentacle rape, ça vient des hentai, c'est des kiffs autour de du viol par des tentacules géantes, voilà. Donc, avec éventuellement un mec déguisé avec des tentacules, mais c'est plus de l'ordre de l'imaginaire. Par contre, il y a le crush fétiche. Alors ça, c'est un peu bizarre. L'excitation sexuelle, en fait... Elle arrive parce qu'on écrase des choses. Voilà. On écrase des choses avec ses pieds en général, des fruits, de la nourriture, on écrabouille de la nourriture et ça excite. Ça, c'est le crush soft. Le truc, c'est qu'après, il y a le crush hard. c'est lié à un sentiment de puissance, je pense, j'imagine. C'est-à-dire que d'un coup, c'est écraser des insectes, des petits animaux invertébrés, et il y en a même qui partent dans des pratiques un peu hardos en écrasant des lapins, des rats, des petits oiseaux. Voilà, ça devient, on commence à être un petit peu, ça devient un peu chaud. Là, en ce moment, il y a un petit truc qui fait fureur, c'est le doorknob shoujo. C'est quoi? C'est les photographies de jeunes filles en train de lécher des poignées de porte. Non, mais on est dans des trucs de fou. Voilà. Donc, des jeunes filles photographiées en train de lécher les poignées de porte, ça fait fureur, quoi. Au Japon, mais pas que, ça devient un peu the truc, quoi. Il y a une connotation, évidemment. Après, ça peut se déplacer. On peut ne pas que les lécher et faire des trucs un peu cochons avec. Dans les trucs étranges, on continue. La croupa frigifilie. Ça, c'est le fait d'être excité sexuellement par des fesses particulièrement froides. Voilà. L'arpaxophilie, ça, c'est l'excitation sexuelle provoquée par un vol. Pas un viol, hein, un vol. C'est quand on vole, voilà. Il y a la nigolophilie. Alors, celle-là, elle est sympa. Moi, je ne suis pas du tout atteinte de nigolophilie. Mais pour les gens qui le sont, en ce moment, ils ont un choix, mais incroyable. La nigolophilie, en fait... L'excitation sexuelle augmente plus les propos sont stupides. Donc en fait, tu rencontres quelqu'un d'absolument con et crétin face à toi qui te sort les pires âneries, les trucs les plus stupides, et plus il est con, plus ça t'excite sexuellement. Je sais pas s'il y en a beaucoup des nigologophiles, mais alors, franchement, ils ont de quoi faire ces temps-ci, c'est ça qui est bon. Alors attention, il y a là, oh putain, les noms à dire, c'est horrible. Scoïnopentaxophilie. Ça devient un peu plus morbide. C'est l'excitation par les cordes dépendues. Alors, c'est vrai qu'ici, c'est un peu compliqué, mais dans des pays où est encore en vigueur la peine de mort par pendaison, eh ben, il y a des gens que ça excite sexuellement. Pour s'exciter sexuellement, c'est de voir des cordes dépendues. Ils ne précisent pas s'il y a un pendu au bout ou pas. Mais voilà, c'est voilà. Alors, tu parles de taliban manouche, moi je vais te parler de charianophilie. Ça n'a rien à voir avec la charia, attention. L'excitation sexuelle est provoquée par le fait d'avoir des rapports sexuels dans ou à proximité d'un chariot de supermarché. Ouais. J'avais fait un truc aussi où des mecs, eux c'était, je me rappelle plus du nom, c'était un fétiche autour du fer à repasser. Voilà. L'excitation due au fer à repasser, il y en a même qui disaient « Ouah, j'ai testé, je me suis mis le fer à repasser super chaud sur la bite, je me suis brûlée, c'était fou comme j'ai joui. » Donc voilà, il y en a quand même pas mal, quoi. Après, on peut partir encore un peu plus loin, hein. Il y a la nécrophilie, évidemment, hein, l'excitation de baiser avec des morts. Il y a la nécrobestialisme, là, c'est utiliser des animaux morts pour niquer. Là, on commence à rentrer dans du... Il y a la phobophilie. Là, c'est plus t'as peur, plus t'es excité sexuellement. Il y a aussi, ça c'est bizarre, et alors là, on va rentrer, du coup, dans des excitations, parce qu'il y en a plein, en fait. Vous allez sur Wikipédia, liste de paraphilies, vous allez halluciner, quoi. Vous allez halluciner. Il y a, par exemple, asthénéophilie. Là, t'es excité sexuellement à chaque fois que t'es malade. Ouais, c'est la personne, elle kiffe dès qu'elle est malade, quoi. Il y a la fornophilie, c'est quand c'est le fait de se prendre pour un objet. Il y avait un article très bien sur le blog de Paris Derrière, où le mec, il expliquait que lui, son kiff, c'était qu'on le prenne pour une table, quoi. Il y a aussi knismolonialie, ça c'est le fait d'être excité sexuellement par les chatouilles. On m'a déjà régulièrement proposé, ça ne dit pas de me faire une vidéo où tu te fais chatouiller. Voilà, la tricolophilie, ça c'est l'excitation par les cheveux ou les poils. D'imaginer te frotter contre des cheveux, c'est le truc, ça te... Oh, c'est un truc de fou, quoi. Il y a aussi, ça c'est un peu étrange, la voraréphilie. Ça c'est l'idée de manger ou d'être mangé par les autres, mais... C'est un fantasme qui est imaginaire parce que dans l'idéal, c'est tu es avalé en entier par l'autre. Il y en a un autre aussi, je sais plus comment ça s'appelle, c'est l'excitation, c'est d'imaginer un géant. Et d'être tout petit, et d'imaginer un géant, c'est le truc, ça te fait mouiller, ça te fait bander comme un fou. Donc là, on est dans des trucs rigolos, des fois un peu morbides, un peu dégueux. Il y en a une, c'est l'excitation sexuelle liée au vomi, par exemple. C'est... voilà. Mais après, il y a aussi ce qu'on appelle les paraphilies létales. Donc, mortelles, où ça va devenir compliqué, vraiment, à gérer. Par exemple, la crémastistophilie. Ça, c'est l'excitation sexuelle liée au vol, au fait d'être volé. Donc, quand t'es volé ou cambriolé, c'est une situation des plus excitantes pour toi. Ou, c'est de là aussi que vient le money slavering, où t'es excité de devoir donner de l'argent à quelqu'un, mais quitte à te ruiner et à te retrouver complètement à la rue, en fait. Ou alors, à créer des situations de vol ou de cambriolage, et du coup, tu peux commencer à vraiment mettre ta vie en danger. Ça devient un petit peu chaud. C'est très répandu chez les hommes japonais, les femmes géantes. Ben, tu vois, voilà. Il y a aussi, ça c'est strange comme paraphilie, l'otassassinophilie. Alors là, tu n'assassines personne. Tu es excité sexuellement par le risque d'être tué. D'imaginer que tu peux être tué, ça t'excite follement. Et du coup, ben, tu peux te retrouver à te dire « Hey, mais quelle bonne idée ! Je vais aller me balader dans ma besance en string mini-jupe en criant « Dehors les Arabes, rentrez tous chez vous !» Le truc très malin, voilà. Et du coup, tu te dis « Waouh, autant, il y a des gens qui vont tellement mal le prendre que je vais peut-être me faire buter. » Donc ça, là, ça commence à devenir, ça fait partie des choses un petit peu létales, un petit peu très dangereuses, quoi. L'auto-assassinophilie, c'est chaud patate. L'hybristophilie, ça... vous en avez entendu parler dans plein de films, de plein de séries, c'est le fait d'être attiré sexuellement par un criminel. C'est tous les serial killers. Plus le méchant, il est vraiment méchant, c'est un psychopathe, sanguinaire, etc. Et t'as des gens, ça les excite, et ils écrivent des lettres passionnées d'amour, machin et tout, et t'en as qui épousent aussi, du coup, ces criminels, et qui, des fois, se font buter. Voilà, hein, t'as voulu jouer, t'as perdu, voilà, c'est comme ça. Et après la biestophilie, ça c'est quand l'excitation est dépendante d'une agression sexuelle sur une personne non consentante. Là, ça devient un petit peu compliqué, voilà. Et la raptophilie, c'est le fait d'être excité par le fait de commettre un viol. Donc, en fait, on arrive sur des choses, hein, c'est moins fun. La pédophilie, la raptophilie, c'est que d'un coup, ces personnes-là, si elles sont vraiment paraphiles, le seul moyen pour elles d'avoir une excitation sexuelle, c'est de violer quelqu'un. Ou d'avoir des rapports avec un enfant peut-être très jeune et pas conscient. Compliqué. L'asphyxiophilie, asphyxie érotique. Alors ça, on a entendu pas mal parler à une époque. Vous savez, c'est le but, c'est de priver son cerveau d'oxygène pour, au moment de la jouissance, jouir encore plus fort. Il y a eu pas mal de morts comme ça. C'était le truc où on voyait des mecs, mais ça s'est vu dans des scènes aussi, où le mec, en fait, fait des systèmes où tu t'étrangles à moitié en même temps que tu te branles ou que tu te masturbes. Sauf que des fois, il y en a qui meurent vraiment s'ils le font tout seul parce qu'ils ont prévu un système de sécurité mais qu'il a pas lâché. Parce qu'ils ont bien privé leur cerveau d'oxygène, mais ils tombent dans les pommes et du coup ils se détachent pas et du coup ils meurent asphyxiés. Il y a quelques morts célèbres d'asphyxie érotique. Il y a Henri Joseph, prince de Bourbon-Comté en 1830. Et il y a, dans l'Empire des Sens, exactement. Ça, en fait, l'Empire des Sens, j'ai appris en bossant mon petit sujet, qu'en fait c'est un vrai fait divers qui a existé au Japon, je sais plus dans quelles années, il y a vraiment eu un couple où ils étaient vraiment dans des pratiques d'auto-asphyxie, à s'étrangler pour ressentir de plus de plaisir. Ils y allaient de plus en plus fort, jusqu'à un moment donné, la nana, en fait, elle a étranglé son mec, il est vraiment mort. Le but n'était pas de l'étrangler, mais il est vraiment mort. Et du coup, après, elle lui a coupé la bite et il a gardé son pénis avec elle dans son sac à main pendant plusieurs jours avant d'être arrivé. Voilà, ça c'est... Le chanteur d'INXS, ben, je savais pas. Et alors, David Carradine aussi. Il est mort d'asphyxie érotique dans un hôtel à Bangkok pendant un tournage. Le film est quand même sorti, il manque trois scènes où David Carradine devait jouer. Mais entre-temps, il est mort. Par asphyxie érotique, c'est ballot. Donc ça, c'est létal. Et donc, il y a des létales pour soi et des létales pour les autres. Puisque ben, quand t'es raptophile et que ce qui t'excite, c'est de violer quelqu'un, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc du coup... est-ce que ça se soigne, la paraphilie? Comment on fait? Comment on fait si on découvre qu'on est atteint d'une paraphilie fort, puissamment, et que c'est le seul moyen qu'on ait d'éprouver du plaisir et d'avoir une excitation sexuelle? Parce que tant que t'emmerdes pas les autres, tant que tu imposes pas des choses aux autres et que ça handicape pas ta vie sociale et affective, il y a pas de souci. Si par contre tu vas plus bosser parce que tu as besoin de te frotter toute la journée à des gens dans le métro, ça devient un peu compliqué, quoi. Donc du moment où ça nuit à autrui et à soi-même, ça devient compliqué. Voilà, on soigne une paraphilie. Attention, ce n'est pas une perversion sexuelle, lorsque ça devient une source de souffrance pour soi ou pour les autres. Alors, en termes de guérison, avant on était sur quelque chose d'assez fun, hein. Il y avait la castration chirurgicale, voilà, comme ça, ça c'est fait. Maintenant, on a les thérapies de groupe, les thérapies individuelles et les thérapies pharmacologiques, à savoir la castration chimique. Il faut savoir que les castrations chimiques, c'est très violent. On n'a pas trouvé tellement... Il n'y a pas de panacée, en fait. On ne sait pas tellement comment soigner, en fait, les paraphilies et donc les perversions sexuelles qui deviennent vraiment handicapantes. Et on ne sait pas le soigner parce qu'en fait, toutes les études scientifiques liées à la sexualité, ben, elles sont très isolées. T'as des cas isolés, on étudie tel petit truc, tel petit truc, tel petit truc. Mais il n'y a pas, en fait, un grand centre scientifique où t'as plusieurs scientifiques qui vont aborder différents problèmes de la sexualité pour vraiment étudier et comprendre la sexualité humaine. Et parce qu'en fait, d'une part, on s'en fout un petit peu, mais surtout, dès qu'on touche à la sexualité, ça devient un bordel infernal. Ça pose des problèmes de morale absolue, et mettons qu'un chercheur commence à trouver des réponses qui sont pas satisfaisantes pour la morale de l'époque, il se fait démonter la gueule. Ben, par exemple, si vous avez vu la série Masters and Johnson, non, je sais plus comment elle s'appelle la série sur Masters and Johnson. Ben, le mec, par exemple, au départ, il est gynéco et il a envie d'étudier l'orgasme et bon, il a pas de moyens. Donc au départ, il va avoir des putes, des gigolos pour essayer de comprendre machin et tout. À un moment donné, il arrive à avoir des fonds. Et de leurs Masters of Sex, merci Pali, de leurs observations, tati tati tata, ils en déduisent que la femme n'a pas besoin de l'homme pour jouir. On est dans les années 60. Dans les années 60, tu dis, les gars, la femme n'a pas besoin de l'homme pour jouir. La femme jouit plus puissamment que l'homme et plus puissamment sans lui. Et ben, ils se sont fait démonter la tronche parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas entendable, puisqu'à ce moment-là, la femme est au service de l'homme, est soumise à l'homme, et l'homme est tout puissant, et la femme, bah, la femme n'est rien sans l'homme, quoi. Donc, et en fait, on a toujours ce même problème, et du coup, il n'y a pas vraiment de recherche complète et où tout se rassemble. Donc, on trouve des infos par-ci, par-là, mais on trouve pas vraiment d'infos, quoi. Et du coup, comment ça se construit une paraphilie? Ben c'est compliqué en fait, on sait pas. Et quand parce que c'est lié au fameux système de récompense renforcement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça dépend de ce que la personne a vécu, ça dépend de comment elle a vécu quelque chose, on sait pas. Et du coup, personne ne s'y intéresse et du coup, moi je trouve intéressant quand même de réfléchir. On a tous tendance à se dire, ouais, lui, il est pédophile, lui, c'est un violeur, ah, c'est tous des gros enculés, c'est des pervers, il faut les mettre à mort, on pourrait les caillasser à coups les tuer, les molester à coups de cailloux qu'on le ferait, en fait. Mais personne se pose la question de, et à eux, ça leur fait quoi? Et eux, ils ont vraiment décidé de n'être excité sexuellement que quand ils violaient ou quand ils avaient des rapports avec des gamins de 7 ans, 8 ans. Est-ce qu'ils ont vraiment décidé, en fait? Et je n'excuse pas la pédophilie, je n'excuse pas le viol, loin de là. Mais je dis juste, voyons les deux côtés de la situation et posons juste la question de qu'est-ce que vit cette personne, en fait? Il y a un film, je sais plus ce que c'est, mais en gros, l'histoire, c'est Nana qui a un sex appeal de fou et qui a un don pour faire ressortir le désir chez les personnes, les hommes, les femmes, peu importe. Et du coup, elle est formée, elle bosse avec des mafieux, machin, pour faire parler les gens, parce que du coup, elle arrive à, en attisant leur désir, à leur faire dire ce qu'elle veut. Et puis elle se retrouve avec un mec Il n'y a rien qui marche. Normalement, ça marche à chaque fois. Il n'y a rien qui marche. Et tout à coup, elle capte. Et elle capte que le mec, son désir profond, c'est un désir pédophile, en fait. Et là, le mec, il s'effondre. Il est sur sa chaise et il s'effondre et il est rétamé. Parce qu'en fait, il pouvait même pas se l'avouer lui-même. Et que le fait que cette nana la voit ce que c'était chez lui, alors que lui se cachait à lui-même et qu'il est pétrifié de honte de son propre désir, eh ben du coup, c'est terrible. Et je confonds pas compréhension et sanction, Gégé. Je confonds, c'est ce que je dis, je ne cautionne pas la pédophilie et je ne cautionne pas le viol, pas du tout. Et vraiment loin de là. Mais par contre, je dis juste, posons-nous juste 2-3 questions en fait. Vraiment 2-3 questions. Sortons un petit peu du jugement. Et puis, la pédophilie, il y a des pays où d'un coup ça devient culturel. Il y a des pays où ce qui est un crime, il y a encore des pays, et là je vais pas me faire des amis, mais le débat est très compliqué. Parce que le débat touche à nos normes et à nos définitions. Il y a des pays où, si tu as une relation homosexuelle, que tu sois un homme ou une femme, tu es condamné à mort. Et ce n'est pas que dans les textes, puisqu'il y a régulièrement des condamnations à mort. Pour avoir, en tant qu'homme, aimé un autre homme, tu te fais buter. Puisque c'est une déviance sexuelle abominable, insupportable. Donc voilà. C'est pas que des histoires de religion, en fait. C'est des histoires de notre propre morale. Balance sur n'importe quel réseau social, un tel est pédophile. Regarde ce qu'il va se prendre. Et pédophile, ça ne veut pas dire que tu passes à l'acte. Tu peux avoir des pulsions, savoir que ton excitation sexuelle est liée, par exemple, à des jeunes enfants, ça ne veut pas dire que tu passes à l'acte. Ça ne veut pas dire que tu passes à l'acte. Pareil pour le viol. Alors du coup, se pose la question de comment on fait. Mais en fait, comme on a tendance dans nos sociétés, parce que c'est plus simple, parce qu'il faut, on met pas de nuances en fait, il faut trancher, tu vois, ça c'est bien, ça c'est mal, et ben personne ne se disait comment on peut pas forcément le soigner, mais le transformer en fait. Qu'est-ce que ça peut devenir quelqu'un qui est excité sexuellement et ça devient une pulsion qui cherche à reproduire par le meurtre. Il y en a, c'est une paraphilie en fait, d'être excité sexuellement par le fait de tuer quelqu'un. Tu fais quoi? Et pourquoi à ce moment-là tu te dis pas, bon bah ok, peut-être je vais faire boucher, ou bosser dans un abattoir, ou bosser dans l'armée, en fait. Je parle pas, alors on va arrêter. Pourquoi vous me quillez les pays islamistes quand on parle de paraphilie, en fait? C'est ça le problème. C'est les amalgames, en fait. Et pour moi, je dis pas que la pédophilie est envisageable, je dis juste que ce qu'on appelle paraphilie, c'est lié à nos normes. Et à notre normalité, en fait. Ah, elle va tous vous faire chier, mon analyse. Parce qu'elle remet en question votre morale et ce que vous acceptez comme étant la normalité, en fait. Mais, par exemple, maintenant on va rire, Angleterre. On est d'accord que l'Angleterre est un pays totalement développé. On va pas rentrer dans ce truc-là où dès qu'on parle d'un truc, on ramène les pays islamistes, foutez-leur la paix, rien à voir là-dedans. Angleterre, au niveau des libertés d'Internet, ils sont au même niveau quasiment que la Chine. Donc, c'est-à-dire que c'est pas hyper fun. Pourquoi? Parce que sous couvert de morale, de normalité, en fait, ils sont en train de restreindre Internet. Et que maintenant, si tu veux voir une vidéo de cul, puisque quand on parle de morale, il y a le cul qui arrive, si tu veux voir une vidéo de cul, tu es obligé maintenant de rentrer pour protéger votre charte blonde, ton numéro de carte bleue, et que du coup, l'État connaisse ton identité. Première chose. Deuxième chose, il y a du coup des pratiques qui ont été jugées immorales. Donc dans un premier temps, ils ont interdit tous les films réalisés en Angleterre qui comportaient ces pratiques-là. Et dans un deuxième temps, c'est en train d'arriver, et ça va arriver, ils vont filtrer toutes ces vidéos auxquelles tu n'auras plus jamais accès. Et dans les pratiques, figurez-vous qu'il y a quoi? Le squirt. Vous kiffez tous hein, le squirt. Hein. Il y en a plein parmi vous, ça les excite, etc. Sauf que là, d'un coup, en Angleterre, la norme définit que le squirt, le squirting, c'est une paraphilie, ça devient anormal, donc c'est condamnable. La fessée, pareil. Donc, c'est juste ça. Posons-nous juste la question, en fait. Et on me dit quoi? Est-ce que je coucherai avec l'un de mes parents ou avec mon frère? Non, parce que j'en ai pas envie, en fait. Et je dis pas définissons une nouvelle norme ou enlevons toutes les normes. On est obligé d'avoir des lois, je suis d'accord, et d'avoir une mise en place d'une morale, je sais pas. Mais toujours est-il que, au lieu de les avaler en se disant, oh oui, c'est comme ça, lui il est méchant, oh lui il est gentil, oh ce c'est un méchant, il faut le condamner à mort, parce que c'est comme ça qu'on en arrive à défendre la peine de mort. Posons-nous juste la question, c'est quoi qu'on nous fait avaler comme étant normal ou pas normal? Voilà. Merci Caro. Donc voilà. Voilà. Donc je répète, je ne cautionne pas la pédophilie, le viol, la zoophilie, pas du tout. Je ne l'excuse pas, je ne suis absolument pas pour. Quand je vois dans un film une scène de viol, j'ai tendance à me casser parce que j'ai beaucoup de mal à le supporter. Mais d'un coup, en bossant ce sujet et en m'apercevant que le viol peut être une paraphilie et où du coup, ta seule pulsion possible de désir qui existe, c'est le viol, tu te dis, hey, c'est comment pour lui de vivre ça? Et je ne l'excuse pas, encore une fois. Voilà, c'est juste ça. Je dis juste, essayons juste d'arrêter un petit peu de tout mettre dans des petites cases, de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Ça va peut-être juste nous permettre d'être un peu moins cons, un peu moins fanatiques aussi, puisque ce truc-là, c'est ce qui mène au fanatisme, un peu moins dogmatique, et peut-être un peu plus humain en fait. Et si on arrive à ça, à faire tous un peu ça, ça évitera, il y a des vies qui ont été absolument détruites. Prenez par exemple, alors on en a tous entendu parler, Nikita Bellucci, ou d'un coup Nikita Bellucci, parce que elle décide d'être actrice porno, c'est une déviance, c'est une paraphilie, elle est pas normale, et elle se fait totalement incendier avec des menaces de mort, etc. C'est cette tendance à se dire ça c'est bien, ça c'est mal, je respecte la norme, je respecte ça, ça me fait drôle, qui fait qu'on en arrive à menacer de mort une nana pour des choix de vie qui ne t'imputent même pas en fait. Les gens censés sont minoritaires, je sais pas, GG, j'en sais rien. Mais voilà. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu, mais c'est arrivé aussi, des instits, il est pédophile, le mec, mais sa vie elle est finie. Et d'un coup, fin de l'enquête, ah merde, en fait il était pas pédophile. Je vous invite à revoir le film avec Benedict Cumberbatch. Je vais chercher le nom parce que je me rappelle plus du film Benedict Cumberbatch. J'ai une mémoire catastrophique. Donc, Benedict Cumberbatch, le nom de ce film fantastique. Comment il s'appelle ce film déjà? Cinéma, long métrage. Nya nya nya. Faut juste que je retrouve le nom. Je vais trouver dessus. Imitation Game. Je vous invite à revoir le film Imitation Game, où dedans le mec est un génie. Il permet, en gros, de gagner la guerre contre les nazis, mais il a une paraphilie absolument inexcusable à l'époque, qui est une déviance sexuelle atroce, il est homosexuel. Et du coup, le mec subit en fait une castration chimique, et ça le détruit en fait, ça le finit. Vraiment, je vous invite à le revoir, et arrêtons d'être à ce point-là dogmatique, vraiment, deux secondes, arrêtons d'être à ce point-là dogmatique, et ça... C'est pas la faute des lois, des ci, des là, des islamistes, des christianistes, des ce qu'on veut en fait. C'est juste, le mec a vraiment existé, pas lui, tout à fait. Ça c'est juste la responsabilité de chacun. Quand on te file une info, au lieu de gerber immédiatement en fonction de ce que ta morale t'a appris, réfléchis deux secondes et fais un tout petit peu preuve d'empathie et de compréhension. Compréhension, ça veut pas dire « je pardonne, allez-y, machin et tout ». Après, à chacun de « ben ouais, t'as fait ça, il y a des conséquences ». Mais par contre, la compassion, c'est prendre avec soi, c'est comprendre ce que vit l'autre, en fait. Voilà. Sachant, je vous rappelle qu'on est tous paraphiles et tous anormaux. Le seul problème, c'est à quel moment la ligne se déplace, à quel moment tu es du bon ou du mauvais côté de la ligne. Allez, on s'écoute un petit morceau de musique. Et juste après, eh bien, c'est le test sextoy. Alors, du coup, pour le test sextoy, vu qu'on est dans la paraphilie, vu qu'on est dans les choses étranges, je me suis dit, quoi de mieux qu'un rabbit qui s'appelle Turtle et qui a une forme de dauphin? Si ça, c'est pas bizarre, hein, moi je vous dis, voilà. Donc, un petit morceau de musique et juste après, c'est le test sextoy. Qu'est-ce qu'on va s'écouter en morceau de musique? On va s'écouter, voilà, j'avais tout trop préparé à l'avance. On va s'écouter. merci Caro! Il est où le morceau? Putain. Attendez. Comme j'ai pas le titre exact. Voilà. On va s'écouter I'm a Creep. Creep de Radiohead. Hein? À être bizarre et un peu strange, soyons creep. Les petits chouchous d'Instagram, je vais vous laisser, ça va être le moment du test sextoy. Et Instagram est soumis à une censure terrible. Donc, si vous voulez assister au test sextoy, quand je vais couper, vous allez avoir le lien direct sur ma story, bit.ly/charliecapfort. Sinon, bonne soirée. Ciao, ciao.